Biodiversité et climat, même urgence, même combat. Un cycle d'émissions organisé par Bouygues Immobilier sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous, ici au siège du groupe Bouygues, au 32 avenue H à Paris et sur les antennes de Radio Immo et Radio Territoria pour un cycle exceptionnel organisé par Bouygues Immobilier, vous l'avez entendu, à l'occasion de la semaine, ou devrais-je dire des semaines européennes du développement durable. Le titre de ce cycle, composé de deux émissions, il est extrêmement clair. Biodiversité, climat, climat, biodiversité, même combat. Dans cette première séquence, nous allons aborder le thème suivant, préserver la vie, à nouveau biodiversité et climat, même urgence, même combat. Dans les 50 minutes qui viennent, nous allons ensemble tenter de résumer les enjeux et de vous donner envie de vous y intéresser, mais quelque chose au fond de moi me dit que vous vous y intéressez déjà, mais de vous mettre en mouvement et d'agir. Les 1500 collaborateurs de Bouygues Immobilier ont la chance d'assister en direct à cette émission, et vous avez souhaité, Monsieur Bernard Mounier, président de Bouygues Immobilier, que un large panel d'acteurs de l'immobilier, de la construction et de la ville puisse en bénéficier, d'où cette retransmission sur les antennes de Radio Immo et Radio Territoria. Et pour cause, en fait, le sujet qui nous anime aujourd'hui, ce devrait être, en plus, au cœur des enjeux business qui animent les professionnels que vous êtes, le sujet qui doit nous animer quotidiennement, pas l'un sans l'autre, mais comme un tandem. Nous avons, pour traiter ce sujet, l'immense honneur de recevoir deux éminents scientifiques pour décrypter les enjeux du changement, du réchauffement climatique et ce qu'il induit d'une part, et de la biodiversité d'autre part. Mais vous allez le voir, si chacun de ces deux phénomènes a sa dynamique propre, et quand je parle de phénomène, je ne parle pas que des intervenants, même si j'en ai un à ma droite qui en est un, pardonnez cette boutade, ces deux phénomènes, climat, biodiversité, sont extrêmement liés et c'est ce que nous allons essayer, entre autres, de démontrer. C'est une manière de vous dire, s'il fallait encore que nous nous en convainquions, qu'il faut agir conjointement et maintenant pour ces deux sujets. Le vivant, le tissu du vivant, la biodiversité qui nous occupe aujourd'hui, écoutez bien ce chiffre que certains entendent dans ma bouche depuis 3 ans, durant les 30 dernières années, la biodiversité a été jusqu'à 8 fois moins médiatisé que le climat. Alors il ne s'agit pas de moins parler de climat, il s'agit de mettre en mouvement les deux sujets en même temps et il est urgent de le faire. Alors commençons, et je me tourne vers vous, Françoise Vimeux, par le sujet du climat. Et ensuite, nous aurons un dialogue avec Gilles Boeuf, biologiste et ancien président du muséum. Françoise, vous êtes climatologue. Le GIEC, je vais essayer d'être exact dans l'acronyme, en tout cas dans sa version française, qui est le groupement d'experts intergouvernemental d'études sur l'évolution du climat, a remis un nouveau rapport, le 6e, souvenez-vous, en août 2019. En août 2021, pardon, c'est un lapsus révélateur. Il y a un peu moins de 2 mois, dans une époque antédiluvienne. Alors rappelons que le premier rapport du GIEC a été remis en 1990. Le rapport qui nous occupe aujourd'hui, c'est une somme de 4000 pages compilant les derniers articles scientifiques qui attestent du réchauffement climatique et de ses conséquences. Et puis, il y a un résumé à l'intention des décideurs qui est 100 fois moins long, puisqu'il fait une 40aine de pages que nous pouvons tous lire. Et il y a aussi de très bonnes infographies qui le résument pour aller droit au but. Ce qui est important de souligner, et je pense que vous allez y revenir, Françoise, en nous expliquant le fonctionnement du GIEC en préambule, c'est que ce résumé à l'intention des décideurs a fait l'objet d'un consensus scientifique, mais aussi a été validé par les 10 décideurs, c'est-à-dire par les gouvernements. Autrement dit, reformulé avec mes mots, je l'entends comme un double consensus, d'une part scientifique, mais aussi d'acteurs politiques, et ça, c'est extrêmement important. Alors Françoise, venons-en à vous. C'est très compliqué toujours de résumer les CV de deux éminents scientifiques. Donc je vais le faire à ma manière. Vous êtes climatologue. Vous êtes notamment directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Vous travaillez au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, notamment entre le CEA, le CNRS et j'en passe. Et vous travaillez aussi au laboratoire Hydrosciences Montpellier. Une de vos spécialités, et là vous m'arrêtez ou vous me compléterez si cela est trop approximatif, c'est d'étudier la variabilité du climat, notamment par l'étude d'isotopes dans l'eau. Aujourd'hui, rien à voir avec un groupe de rock, vous menez plus spécialement ces recherches sur les régions tropicales et subtropicales. Et en 1999, votre thèse, sous la direction de Jean Jouzel, que nous saluons, s'intéressait à l'Antarctique, dont on sait les pôles, qu'il s'agit de lieux déterminants pour l'avenir du climat et pour lire leur passé. Alors, merci infiniment d'être à nos côtés. Et alors, lorsque nous nous sommes appelés au cœur de l'été, vous m'avez proposé de relever un défi. Alors, allons-y. C'est de résumer en 15 minutes le dernier rapport du GIEC. Françoise, merci. C'est à vous.
Oui, donc, bien, merci beaucoup pour cette introduction hein, qui est complète et j'ai rien à rajouter. Donc, en fait, j'ai 15 minutes pour vous résumer plusieurs centaines de pages. Évidemment, je vais vous parler des points saillants et vraiment vous faire passer les quelques messages importants qui faisaient partie de ce rapport hein, du groupe 1 du GIEC. Et c'est peut-être pour moi l'occasion de dire quelques mots sur l'organisation du GIEC, parce que nous voyons beaucoup de confusion des fois dans les médias. Donc le GIEC, c'est un groupe d'experts hein, sur le climat, qui en fait répond à une commande des Nations Unies, qui est de faire tous les 5 à 7 ans une synthèse de l'état de nos connaissances sur le climat au sens général. Alors il y a un premier groupe qui s'intéresse à la physique du climat, qui a rendu son rapport le 9 août dernier, le précédent daté de 2013. Il y a un deuxième groupe du GIEC qui s'intéresse beaucoup plus aux impacts du changement climatique, à notre vulnérabilité. Et puis il y a un dernier groupe, le groupe 3, qui s'intéresse à ce qu'on appelle la mitigation, c'est-à-dire l'atténuation du changement climatique. Et ces deux derniers groupes vont rendre aussi un rapport début 2022. Alors, sur le groupe 1, celui qui s'intéresse à la physique du climat, il y a 234 auteurs sur 65 pays, c'est-à-dire de 65 nationalités différentes, qui ont étudié en fait 14 000 études scientifiques. Donc ce qui est important de rappeler, c'est que le GIEC ne fait pas de science, de travaux scientifiques en son nom propre. En fait, il fait une revue des études scientifiques qui ont été publiées ces dernières années. Et donc il y a 14 000 études qui ont été passées au crible. Il y a eu 80 000 commentaires qui ont été réalisés. Et les scientifiques du GIEC, en fait, en plus de cette synthèse, viennent expliquer là où il y a vraiment un consensus sur les questions scientifiques et là aussi où sont nos incertitudes et le manque de notre connaissance sur certains aspects. Alors, je vais vous résumer les points qui me semblent importants. Le rapport du GIEC qui est sorti au mois d'août rappelle ou dit que, de manière sans équivoque, les observations que nous avons depuis un peu plus d'un siècle, c'est-à-dire que le réchauffement de l'atmosphère que nous voyons depuis plus d'un siècle, est lié sans équivoque aux activités humaines. Alors ce qui est nouveau, en fait, c'est le terme sans équivoque, puisque jusqu'à présent, le rapport du GIEC donnait un niveau de confiance pour cette affirmation qui était de 95-98%. Et là, en fait, le niveau de confiance est de 100%, et donc il n'y a plus de niveau de confiance associé à cette affirmation. Ce qui est aussi important, il me semble, c'est que ce rapport vient nous rappeler que beaucoup des changements que l'on observe sont sans précédent sur des centaines d'années, des milliers d'années, voire des millions d'années. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, la concentration en dioxyde de carbone dans notre atmosphère, c'est environ 420 parties par million. Si on veut retrouver cette concentration dans l'atmosphère dans le passé, il faut remonter entre 2 et 3 millions d'années. Si on regarde par exemple l'augmentation de la température de l'atmosphère sur les 10 dernières années, sa vitesse est sans précédent depuis 2000 ans. Si on regarde l'étendue de la banquise arctique au mois de septembre, cette banquise a atteint aujourd'hui un minimum qu'on n'avait pas vu depuis 3000 ans. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça qui se succèdent et qui sont, je dirais, assez imagés pour vous donner une idée de la situation que l'on vit, qui sort en fait du rythme de la variabilité naturelle de notre climat. Ce que ce rapport aussi nous dit, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes sur des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre qui nous emmènent à une anomalie de température à la fin du siècle d'environ plus 3 degrés par rapport à la période pré-industrielle, c'est-à-dire la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, nous sommes déjà à une anomalie de 1,1 degré à la surface du globe. Si on regarde uniquement les continents, cette anomalie est de 1,6 degré. Et on constate déjà aujourd'hui des changements importants, en particulier sur les événements extrêmes, avec uniquement 1,6 degré. Sachant que ce 1,6 degré sur les continents, c'est une moyenne globale. Il y a des régions qui se sont déjà réchauffées davantage, en particulier les régions arctiques, où on a déjà atteint des anomalies de température de 2 à 3 degrés depuis la fin du 19e siècle. Alors, ce qui est important aussi dans ce rapport, c'est qu'il insiste sur le fait que, comme je vous le disais, on voit déjà des changements, des impacts importants du changement climatique. Et ces impacts, en fait, ils se généralisent à l'ensemble des régions. Et on pense que d'ici 10 à 20 ans, toutes les régions vont être touchées par le changement climatique, que ce soit par des événements extrêmes, que ce soit par des tendances, c'est-à-dire il fait de plus en plus chaud l'été, ou que ce soit dans certaines régions parce que l'on va dépasser des valeurs, des seuils de tolérance pour l'homme et la femme. Par exemple, dans certains pays du Maghreb, lorsqu'on atteint certaines températures couplées à un certain taux d'humidité, ça devient très difficile à supporter. Et puis sur les événements extrêmes, la nouveauté de ce rapport, c'est qu'il y a un chapitre qui est complètement dédié à ces événements, ce qui n'était pas le cas avant. Donc quand on parle d'événements extrêmes, nous parlons de vagues de chaleur, de pluies torrentielles ou bien de sécheresses prolongées. Et la conclusion sans appel, c'est que le changement climatique, le réchauffement de l'atmosphère et de l'océan viennent en fait exacerber à la fois la fréquence et l'intensité de ces événements extrêmes. Ce qui est important de comprendre, c'est que le risque qui est dû aux événements extrêmes n'est pas proportionnel au réchauffement climatique. Alors, je vous donne un exemple. Si on prend une vague de chaleur qui avait une probabilité de se produire une fois tous les 50 ans au cours de la période pré-industrielle, aujourd'hui, la probabilité est multipliée par 5 par rapport à la période pré-industrielle. Dans un monde à plus 1,5 degré, la probabilité est multipliée par 2, et dans un monde à plus de degrés, la probabilité est multipliée par 3 par rapport à aujourd'hui. Donc en fait, le risque associé aux événements extrêmes augmente plus vite que le réchauffement lui-même. Il y a une autre notion qui est importante dans ce rapport, c'est la notion d'irréversibilité. Alors bien sûr, ce n'est pas une notion d'irréversibilité ad vitam aeternam, mais c'est des phénomènes irréversibles à l'échelle humaine sur plusieurs siècles et plusieurs millénaires. Ça concerne essentiellement tout ce qui est autour de l'océan, qui est la composante lente du système climatique. C'est une composante qui réagit lentement, à la fois quand l'atmosphère se réchauffe et en même temps quand elle se refroidit. Donc, par exemple, si nous arrêtions aujourd'hui toute émission de gaz à effet de serre, dans 1000 ans, le niveau des mers continuerait à augmenter à cause des gaz que nous avons déjà émis dans notre atmosphère. Alors, tout ça, c'est un ensemble de points importants assez factuels qui ne sont pas forcément des bonnes nouvelles. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans ce rapport, puisqu'il nous dit que tout n'est pas perdu et que nous avons aujourd'hui encore la possibilité de limiter le réchauffement à plus 1,5 degré à la fin du siècle, pourvu qu'en fait nous agissions dès maintenant, c'est-à-dire que pourvu que nous diminuions nos gaz à effet de serre immédiatement et de manière drastique. Donc de manière drastique, ça veut dire dans les 10 ans qui viennent, pour atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone au milieu du siècle. Alors le calcul, il est assez simple. En fait, on connaît très bien la relation entre le réchauffement et le dioxyde de carbone que nous mettons dans l'atmosphère. C'est une relation linéaire. On a beaucoup progressé sur la connaissance de la pente de cette relation linéaire. Pour faire simple, pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, il ne faut pas que nous mettions plus de 3000 gigatonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Nous sommes quasiment à 2500 gigatonnes, tout ça au niveau global. Donc il nous reste un crédit de 500 gigatonnes. Sachant qu'on émet à peu près 40 gigatonnes par an, eh bien vous faites le calcul et vous voyez que dans 12 ans, nous devons avoir atteint la neutralité carbone, c'est-à-dire que l'on émet autant que l'on est capable de récupérer des gaz à effet de serre. Alors la bonne nouvelle, c'est que si on fait ça, très rapidement, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère va diminuer. Et d'ici 20 à 30 ans, on va voir la température de l'atmosphère se stabiliser. Il y a une inertie, c'est pour ça qu'en fait, la réponse de la température n'est pas immédiate, mais on peut vraiment jouer sur la deuxième partie du 21e siècle. Voilà.
Merci beaucoup, Françoise, pour la concision, la précision de vos propos. Je retiens ce réservoir, entre guillemets, de, même si ce n'est pas le bon terme, de crédit, de 500 gigatonnes de carbone, et nous en émettons chaque année à peu près un dixième, entre 40 et 50 gigatonnes. Il nous reste donc 10 ans pour atteindre la fameuse neutralité carbone. Françoise, vous restez avec nous. Au fond, dans ce que vous nous dites, et lorsqu'on a préparé cet échange, c'était une conclusion forte, vous nous dites que la Terre ne va pas être détruite. Non. En revanche, les phénomènes climatiques se succèdent et s'accélèrent depuis que l'humain est là. Et c'est le tissu du vivant, je reprends vos termes, qui lui est menacé, autrement dit nos écosystèmes. Alors, j'aurais voulu faire une transition, elle était toute trouvée, mais je vous assure, c'était ainsi que nous avions conclu nos échanges. Et ça me permet de faire le lien avec vous, Gilles Boeuf. Alors, je reprends le CV. Gilles, vous êtes biologiste. Vous êtes ancien, entre autres, je ne vais pas tout dire, président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Le vivant, je fais le petit clin d'œil, c'est votre spécialité, mais j'ai envie de dire c'est votre généralité, au sens où vous avez cette capacité à avoir une vision globale des phénomènes, et c'est aussi pour cela que vous êtes ici. Vous êtes une bibliothèque vivante de tout un tas de sujets, pour moi, dans la lignée des Théodore Monod et d'autres penseurs qui avaient la capacité à voir large. Le vivant, en plus d'être la science qui vous anime, c'est aussi votre passion et je dirais même votre vie. Alors, on ne peut pas lister ici toutes vos attributions, mais je dirais qu'à la fois, vous continuez à mener le combat partout à travers le monde, de l'école primaire jusqu'au président de la République, voilà, on peut le dire, à tous les niveaux. Et puis, vous êtes aussi ancré dans votre sud-ouest. Vous venez ici pour donner des cours à AgroParisTech, notamment, et pour cette émission de Bordeaux. Et dans ce grand sud-ouest, vous présidez notamment une réserve de nature. Alors, Gilles, nous avons la lourde tâche ensemble, durant une vingtaine de minutes, d'aborder quelques questions, réponses, pour bien comprendre le sujet qui nous anime. La toute première question, elle est évidente, c'est une question de définition. On parle de biodiversité, on parle parfois de nature, on parle de vivant. Tout ça, c'est un corpus assez vague. Mais au fond, vous qui avez la capacité à nous expliquer les choses simplement, de quoi s'agit-il ?
Dans ma leçon inaugurale au Collège de France, je disais « La biodiversité, c'est la fraction vivante de la nature ». Je me rappelle avec Nicolas Hulot des discussions, on confondait nature avec biodiversité. Non, le D'abord, nature, biodiversité égale vivant, c'est plus facile. Le vivant, c'est nous. Et puis le vivant, c'est la partie vivante de la nature qui s'est construite sur une antériorité qui était une terre, qui était minérale. Les vents existaient, l'océan ancestral était déjà là. Il y avait des falaises, il y avait des magnifiques cristaux de quartz, pas de vivant. Le vivant démarre il y a un peu moins de 4000 millions d'années par une première cellule. Une cellule, c'est quoi ? C'est une membrane avec quelque chose à l'intérieur et à l'extérieur. Et tous les êtres vivants, nous aussi, bien sûr, nous sommes faits d'eau liquide, qu'on ne l'oublie jamais, de membranes, de cellules et de sel. Voilà. Tout est à ce niveau-là. Donc ce que je dis souvent, c'est que à l'humain, nous sommes le vivant, tous ici dans la salle. Pourquoi avons-nous dans notre sang en ce moment 142 millimoles de sodium ? Ça vient d'où ce truc ? 3 millimoles de potassium, 105 millimoles de chlorure ? Ben, c'est la trace de l'océan ancestral. Chaque humain a un petit océan dilué par 3 au sein de chacun d'entre nous. En ADN, on partage, allez, on le sait maintenant avec nos micro-algues marines qui nous fournissent la moitié de l'oxygène de la planète, quelque chose comme 30% de séquences exactement identiques. Les deux tiers avec une mouche. C'est ça, ce que je veux démontrer, c'est à tous mes amis qui sont là, en tant d'abord qu'humain, que citoyen, que papa, que maman, que grand-père, que grand-mère, qu'ami de plein de monde, c'est que nous sommes le vivant, nous ne sommes pas à côté. Donc le vivant, ben, ce sont les 2 millions d'acariens chaque matin dans votre lit, parce que vous y avez dormi, et que vous dormiez à deux ou tout seul, ça marche mon truc, il y a 2 millions d'acariens dans un lit humain le matin, qu'est-ce qu'ils font là ? Ben, ils bouffent vos poils, vos particules de la peau qui se desquament, vos cheveux, c'est ça. On vit dedans en permanence. Qu'est-ce que vous mangez ? Que du vivant. Hein, mon cristal de quartz, tout à l'heure, vous ne le mangez pas, vous ne le consommez pas. C'est ça qui est extrêmement important à définir. On ne peut pas s'en passer de ce vivant. On est irrémédiablement lié à ce vivant depuis les origines. Admettons-le. Et si on admet que nous sommes le vivant, ça va tout changer, effectivement. Parce que chaque fois qu'on va l'agresser, on va s'auto-agresser. Ce qui n'est pas très malin pour une espèce qui, elle-même, s'est appelée en 1958 Homo sapiens, l'homme qui sait. Et c'est là qu'on va passer de science dure, comme le disait à l'instant mon amie Françoise, jusqu'à de la philosophie. Donc le vivant, c'est la biodiversité, partie vivante de la nature, c'est tout ce qui nous entoure, je suis déjà défini par une définition plus récente, c'est l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants, les bactéries, les protistes, on s'en fout des protistes, ben, y a pas de français sans protistes, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de pain. Donc Bactéries, protistes, grosses cellules à noyaux, les microalgues de l'océan, les champignons, les plantes et les animaux. C'est ça le vivant. On ne peut pas s'en passer parce qu'on mange ce vivant et en permanence, on coopère avec lui. Je finis sur la Covid-19, on en a parlé un petit peu. Ce petit Covid, en fait, il révèle nos fragilités. Qui il tue ? Ce qu'on appelle les comorbidités. Des gens âgés, des gens en surcharge pondérale, en diabète de type 2, en hypertension artérielle, Alzheimer. Il cible des gens qui déjà sont en détresse de communication entre ces cellules qu'ils hébergent et leurs cellules humaines. Alors regardons de près la situation. Comment ce petit truc a 15 gènes coronavirus 19 ? On en a 29 000 chacun d'entre nous, il nous empoisonne la situation. Voilà une jolie relation entre l'humain et ce vivant. Nous sommes le vivant tous.
Alors, si certaines ou certains d'entre vous étaient antitistes, vous retiendrez les protistes.
Oui.
Ah oui, 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 grâce au pain et aux bonnes victuailles, nous sommes tous protistes.
Et les microalgues, toutes les microalgues de l'océan, le phytoplancton qui est si important dans la physique de l'océan. Le phytoplancton, c'est l'océan vivant qui régule ce climat. Tout à l'heure, notre ami en parlait. Un océan sans vivant ne sera pas capable de faire ça.
Alors justement, et c'est ce qui est formidable avec Gilles, c'est qu'il peut faire les questions et les réponses, mais c'est très bien. La deuxième question est évidente. On a terminé sur le dérèglement du système Terre et l'érosion du vivant menacé par le changement climatique. Quel lien, vous l'avez esquissé avec le phytoplancton, pouvons-nous citer de relation entre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité et vice-versa ? Je rappelle le titre. Biodiversité, climat, climat, biodiversité, même combat.
Ce qui est très clair, c'est que tous, on imagine facilement l'influence du climat sur le vivant. Je vais revenir après au rôle de la température sur les vivants. Mais on oublie une chose importante, ça marche dans l'autre sens. C'est pas bon pour nous. Le vivant qui s'en va change les conditions climatiques. La déforestation en Afrique change les précipitations. La surpêche, par exemple, de poissons pélagiques en Namibie ou au Chili modifie la capacité de l'océan à fixer le CO2, puisque justement, c'est ce phytoplancton qui joue ce rôle important que j'évoquais tout à l'heure. Donc, même combat, oui, pas toujours. Hein. La surpêche du thon rouge en Méditerranée n'a rien à voir avec le changement climatique. Les néonicotinoïdes sur la betterave non plus. Sauf à me démontrer qu'elle est malade, la betterave, parce que le climat a changé, justement, ce qui est fort possible. Donc, les relations sont évidentes. Température. Qu'est-ce que fait la température sur les vivants ? Sur vous tous. Première chose, le métabolisme. Le métabolisme double en consommation d'oxygène, chaque fois la température augmente de 10 degrés. Deuxièmement, les migrations. Tout le vivant est lié à un environnement précis qu'il a choisi. Je ne suis pas là par hasard, je suis bien là, je reste là. Et lorsque vous n'êtes plus bien là, vous partez. Quand vous êtes mobile, un arbre ne peut pas faire ça. Une éponge marine ne peut pas faire ça. Mais sur Terre, on bouge tous. Et c'est super intéressant. On voit en ce moment une migration fantastique des espèces dans l'hémisphère nord vers le nord, dans l'hémisphère sud vers le sud, avec nos amis climatologues sur Acclimatera à Bordeaux. Aujourd'hui, le ponton marin, il fait 40 km par an vers le nord, dans l'hémisphère nord. Nos poissons, une dizaine de kilomètres. C'est plus difficile sur Terre parce qu'il y a des barrières en permanence. Hein. 6 km par an sur Terre, vers le nord ou vers le sud, selon l'hémisphère. En mer, c'est spectaculaire. Quand on regarde nos pêcheurs, nos amis pêcheurs, en fait, qui passent en train de chercher de l'animal, le trouve toujours plus loin vers le nord dans l'hémisphère nord et l'inverse dans l'hémisphère sud. Donc les relations sont évidentes. La température modifie le sexe. Il y a beaucoup d'espèces de crocodiles, de poissons, dont le sexe est déterminé par la température d'incubation des œufs. Demain, on aura des espèces où il n'y aura plus que des filles ou que des garçons. Ça ne marche pas par la suite si on va jusque-là. On a déjà plein d'exemples. Vous voyez que les relations climat-vivant, et puis depuis toujours, depuis que la Terre tourne, tout à l'heure, elle l'a dit, notre amie Françoise, tout a changé. Le vivant, c'est adapté en permanence à ce changement quand ils viennent de l'extérieur. Et ça fera une conclusion de tout à l'heure aussi, hein, mais je peux l'avancer maintenant. Pour s'adapter, on ne peut pas s'adapter sans changer. Et nous ne changeons toujours pas. Voilà pourquoi, vis-à-vis du changement climatique, il est impératif de faire quelque chose. L'inaction serait la pire des réactions.
Effectivement, le coût en plus de l'inaction est bien pire que celui de la prévention. Alors, vous nous avez dit que la biodiversité, c'était notre quotidien. Ça commence au lever, et ça continue au coucher avec les acariens. Si on prend une question très égocentrique, très anthropocentrée, qu'est-ce qu'elle apporte aux êtres humains, cette biodiversité ?
J'ai déjà signalé tout.
Mais oui, mais...
Qu'est-ce que vous mangez ? Avec qui vous coopérez ? On sait que dans les grands équilibres qu'a abordé tout à l'heure Françoise, ce qu'on appelle les cycles biogéochimiques, le vivant a un rôle absolument... Vous savez que, moi qui aime aussi la minéralogie, j'ai présidé cette grande maison du muséum, il y a un peu plus de 5000 espèces minérales sur la Terre, 5100. Eh bien, les deux tiers n'existeraient pas sans le vivant. Quand ce vivant a commencé à produire de l'oxygène dans l'océan ancestral qu'on évoquait tout à l'heure, la grande oxydation, tout va changer. Nous tous ici, là dans la salle, on a des os, on tient debout, on a un crâne, on a des os longs et des os plats. Mais c'est fantastique, c'est quoi? C'est une communication incroyable, une communion entre le minéral et le vivant. Une coquille d'un œuf de poulet, le squelette du corail, ce qu'on appelle la biominéralisation. Tout ça est complètement dans un dialogue très subtil entre le vivant et le non-vivant. Et on ne pourrait pas vivre sans notre squelette, bien évidemment. Une coquille d'huître, par exemple. Et c'est ce qu'on retrouve dans les séries fossiles, d'ailleurs. Donc, cette biodiversité, elle est absolument essentielle. Celle qui purifie l'eau dans un marécage, celle qui joue un rôle actif sur toutes ces questions que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est clair aujourd'hui qu'on ne peut pas accepter de l'effondrer comme on le fait en ce moment. Alors les raisons, je peux les évoquer si c'est la question.
Oui, bien sûr.
C'est pourquoi ce vivant s'en va. Un, destruction pure et simple. Ça veut dire qu'on annihile un système vivant, un écosystème, une forêt, une mare. L'océan est différent, il est intéressant. Moi, j'aime beaucoup parler d'océan, Françoise le sait. On ne détruit pas l'océan, on détruit le littoral. Allez vous balader sur la côte méditerranée, on détruit le littoral. Mais l'océan, c'est plus subtil que ça. Destruction pure et simple. Deuxièmement, les contaminations et les pollutions. Quand vous voyez que le chlordécone en Martinique, on va utiliser un produit hyper dangereux connu pour gagner quelques centimes sur le prix du kilo de banane. Et on empoisonne les sols pour 2 siècles. C'est ça notre combat à tous ici, hein. Y compris au niveau de l'entreprise, hein. Je ne crois pas, moi, à une situation où on sortira des problèmes actuels sans le monde de l'entreprise. La science, pas les opinions, la science. La politique, on pourra en discuter, bien évidemment, les ONG, les citoyens et l'entreprise. Et là, vous avez, vous, par la puissance de feu de votre groupe, la capacité, j'en suis certain, de faire quelque chose. Destruction, contamination, surexploitation, la surpêche en mer, par exemple, la destruction de la forêt tropicale, la dissémination de tout partout. Dramatique. En ce moment, je me bats parce qu'au Kerguelen, les scientifiques n'avaient pas fait attention. Dans les créneaux de leurs chaussures, ils avaient amené des graines de pissenlit. Les Kerguelen recouvertes de pissenlit qui n'aiment pas les oiseaux austraux. Alors, dans un bureau à Paris, il y a trop de pissenlits, on amène des lapins. Et maintenant, on croule sur les pissenlits, les lapins. Plein d'exemples comme ça. Et enfin, le climat qui change, qu'on a évoqué tout à l'heure. Voilà les 5 raisons aujourd'hui de l'effondrement du vivant.
Alors, quel est son état? Il y a quelques jours, le congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature à Marseille, qui a publié sa liste rouge. On entend régulièrement, au même titre que le GIEC, des conclusions de l'IPBES, les experts internationaux sur la biodiversité. En quelques mots, quels sont... les fragilités et les faits sur ce tissu vivant.
Alors, je ne suis pas là pour vous plomber. Hein. Mon discours est très mesuré. Ça veut dire qu'on vous dit des choses qui sont inquiétantes, préoccupantes pour le moins. Mais je ne veux pas vous paralyser dans votre capacité à réagir. C'est mon rôle d'enseignant dans les universités ou dans les grandes écoles. Hein, quand je suis effectivement dans les grandes écoles d'ingénieurs ou n'importe où, hein, des écoles vétérinaires ou en médecine. C'est subtil dans la communication. Je ne suis pas là pour désespérer les jeunes en particulier. La question, c'est ce vivant, effectivement, s'en va. Nous, au muséum, 30% au moins des oiseaux communs dans les champs en France depuis une trentaine d'années. Il nous manque les 3/4 des insectes qui volent sur 27 ans. Et la liste est une longue litanie, comme ça, en mer, on a effondré des stocks, où sont les mérous du Maroc? On a plein d'exemples, mais ce n'est pas mon but de faire des grandes listes. En tout cas, c'est clair qu'on l'abîme considérablement sans réfléchir à ce qu'on fait. Et qu'est-ce qu'on fait finalement? On tue la poule aux œufs d'or en permanence, puisqu'on veut trouver des ressources au sein de ce tissu vivant, et on l'affecte dramatiquement beaucoup, beaucoup trop vite. On a tué la moitié des éléphants en 40 ans, et ce n'est pas les femmes qui tuent les éléphants. Vous voyez qu'il y a quand même une chose intéressante, qu'il faut crier, qu'il faut hurler. Pareil pour les girafes. Pourquoi? Parce que les gamins à 14 ans ont des kalachnikovs qui valent $50 US à la frontière du Soudan et du Congo. C'est ça le problème. Comment on traite les femmes? Les femmes sont très impactées parce qu'elles ont une perception de ces questions-là bien supérieure à celle des garçons. Et elles ont des solutions. Je me suis régalé à communiquer avec elles durant la COP21 ici à Paris. Elles m'ont raconté des choses tout à fait extraordinaires. Elles vont chercher de l'eau, collecting water. Quand elles font ça, elles ne vont pas à l'école. Elles n'ont pas de rémunération pour faire ça. Elles ne sont jamais propriétaires des terrains sur lesquels elles travaillent. Et puis, elles font des mauvaises rencontres en route, qu'on vient d'évoquer. Voilà des questions d'écologie globale essentielles. Et c'est là que, quand on parle déforestation et climat, ce n'est pas des grosses multinationales qui déforestent. Hein. Ce sont les 700 millions de femmes en Afrique qui, tous les jours, vont dans la forêt couper du bois pour chauffer de l'eau. Voilà comment on peut les aider. Et c'est pour ça que c'est absolument essentiel de parler de ça en permanence. L'état du vivant, donc, il est en train de s'effondrer. Je ne parle pas d'extinction, j'aime pas trop le terme. Nous, on a beaucoup travaillé sur les extinctions. On en connaît 60 depuis 800 millions d'années, dont 5 majeures. Alors, la question actuelle que posait mon successeur Bruno David il y a quelques temps dans un livre en janvier 2021, est-on en train de mettre les conditions de la 6e crise d'extinction? La question mérite d'être posée. Comment on réagit?
Alors, comment on réagit? On va y venir. Vous citez des exemples un peu partout par le monde, et c'est ce qui est extraordinaire dans cette vision globale. Vous avez dit autre chose aussi. Vous avez parlé de la diminution des oiseaux communs en quelques années, des insectes. Pour bien reformuler pour tous et toutes qui nous écoutent, on a d'une part des pans entiers du vivant, des catégories, des espèces qui disparaissent, voire s'éteignent, c'est la fameuse notion d'extinction. Et puis aussi, on a une diminution des effectifs. J'utilise souvent ce parallèle qui est peut-être un peu grossier, du trajet en voiture, où il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, vous faisiez un long trajet autoroutier et vous retrouviez votre pare-brise recouvert d'insectes morts. C'est moins le cas aujourd'hui. Donc on a ces phénomènes globaux ou certains très locaux qui peuvent nous apparaître lointains, mais ici même en France, nous avons aussi des changements attestés de ce vivant.
Bien sûr. D'ailleurs, c'est ce que l'UICN a publié en mars 2021, il y a quelque temps, un peu avant le congrès de la semaine dernière à Marseille. On a un joli diagramme, regardez-le, le vivant qui s'effondre en France dans les territoires outre-mer. Donc, ce n'est pas que chez les autres. Hein. Donc, la considération, c'est premièrement, aspect éthique, pourquoi? Pourquoi on effondre ce vivant? C'est une vraie question. On n'y a aucun intérêt, bien évidemment. Et puis, deuxièmement, c'est la question pratique qu'on évoquait tout à l'heure, dans le rôle de ce vivant, dans nos protections. Le coronavirus 19 vient d'une chauve-souris, initialement. Je ne dis pas qu'elle n'a pas été bricolée ailleurs, mais quelqu'un est allé chercher dans une grotte chinoise le Rhinolophus affinis. Puis, ou par un marché ou par un laboratoire, je ne connais pas, on l'a ramené. On l'a bricolé. Qu'est-ce qui se passe? Hein, comment ceci a-t-il été rendu possible? Ce qui n'aurait pas dû se passer, s'est passé. Et deuxièmement, comment ça a été disséminé à une vitesse effroyable? Moi, je vois le premier vol Wuhan-Milano. Ça y est, gros cluster de Covid-19 en Italie. Et tout a été à l'avenant. Donc, c'est là, effectivement, aujourd'hui, qu'il faut qu'on se préoccupe de ce qu'on fait tous les jours sur ces questions particulières. Donc, beaucoup moins d'imprévoyance. Et je pense que c'est un des grands défauts de l'humain. Beaucoup moins d'arrogance, surtout chez les mâles, chez l'humain. Et beaucoup moins de cupidité. Et c'est là aussi que tous, on doit y contribuer, y compris, bien sûr, aussi l'entreprise.
Alors, vous levez des sujets, vous nous dites que vous n'êtes pas là pour plomber notre morale et que nous pouvons agir. Quel levier, en plus de ceux que vous venez d'évoquer, à travers quelques exemples, on peut actionner qui permettent de, entre guillemets, redresser la barre ou de changer de situation?
Il y a Julie Papier dans Science, sorti hier, notre ami Philippe Curie, que connaît bien François, sur les pêches mondiales. Et il montre effectivement que l'effet réserve a un effet. Mais pour qu'une réserve puisse avoir un effet, il faut lui mettre des moyens. Donc les réserves qui fonctionnent, elles ont des moyens en personnel et puis en moyens financiers pour que ça tourne aussi. Je préside une réserve naturelle dans les Pyrénées qui vient d'être classée il y a un mois au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons 8500 espèces sur 300 40 hectares. Voilà, ça c'est un exemple particulier. Des réserves en mer et sur terre, et puis arrêter de faire simplement ce qui détruit le vivant, arrêter de détruire, arrêter de tout répartir partout, arrêter de contaminer partout, arrêter effectivement les surexploitations, et puis se préoccuper du climat tel que nous l'a enseigné tout à l'heure Françoise. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Mais tout, on peut jouer à notre niveau à nous et au niveau global. Et je répète, je ne crois pas à un succès de telles entreprises sans justement le monde de l'entreprise qu'on évoquait tout à l'heure.
Alors, on vient au monde de l'entreprise, ça nous interpelle sur cette assertion communément admise que l'homme, avec un grand H, l'être humain, vit principalement en ville, plus de 50% de la population, bientôt 80%, les trois quarts, ça dépend des chiffres que l'on regarde. Pour vous, quel intérêt, quel bénéfice y a-t-il à intégrer le vivant à ces grandes conurbations urbaines ?
Deux chiffres. Au Muséum d'histoire naturelle en 2003, la canicule française récente, 15 000 morts. Eh bien, un thermomètre au centre jardin des plantes, et le même thermomètre, je voulais embêter mes amis à l'école normale supérieure, rue d'Ulme. Il y avait 7,5 degrés d'écart. Et la rue d'Ulme n'a pas d'arbres. Ce qui veut dire que le vivant en ville joue un rôle incroyable de thermorégulation et un rôle sur le confort. Tout à l'heure, Françoise l'a bien dit, c'est une question de température, mais aussi d'hygrométrie. Hein, et ce qui est très compliqué aujourd'hui, on va finir par avoir des zones du monde. Vous savez, la physiologie humaine, elle marche beaucoup mieux pour protéger l'humain vers le froid que vers le chaud. Hein, on n'a que quatre phénomènes physiques pour nous refroidir. La conduction, la convection, le rayonnement infrarouge et l'évaporation. Et les trois premiers ne marchent plus, ils sont inversés au-dessus de 32 degrés. Voilà pourquoi l'humain a beaucoup de mal à s'adapter à ces conditions-là. Quand vous avez 100% d'hygrométrie à l'extérieur avec une température au-dessus, et puis le mal-être, il est là, bien évidemment. Hein, pendant la guerre du Vietnam, ces jeunes Américains qui étaient complètement émoussés dans leur capacité à thermoréguler, parce qu'ils étaient depuis longtemps refroidis l'été et chauffés l'hiver, eh ben, ils n'ont pas fait le poids. Et ce n'est pas uniquement les armes automatiques qui ont régulé la question. Ça a été un mal-être, effectivement, d'humains pas préparés à ces conditions physiologiques. Ils buvaient 9 litres d'eau par jour. Donc vous voyez ces relations entre le climat et puis ces questions qu'on évoque ici. Je n'ai pas dit aussi, il est clair que pour les questions de relations humain-biodiversité, il faut manger moins de viande. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tous devenir vegan pour des raisons claires. Hein. D'abord, l'élevage de bovins, effectivement, contribue au problème des gaz à effet de serre qu'évoquait Françoise tout à l'heure. Et deuxièmement, il y a la question de l'élevage et de l'abattage. Les Français mangeaient, il y a 120 ans, à peu près 1500 kilocalories par jour. On en mange 3000. Hein. On mange trop, on mange mal. Donc, ce qu'il faut faire, et puis surtout, il faut accepter de payer ce qu'on mange. Vous êtes le reflet de ce que vous mangez. Payez votre alimentation décemment pour qu'on ait un monde agricole qui, demain, n'utilisera pas de pesticides. Parce qu'on leur a dit plus, 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 moins cher, moins cher, moins cher. C'est pas possible. C'est comme les billets d'avion à 5 euros. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment des choses que l'on peut faire pour changer la situation.
Alors, vous nous dites que plus il fait chaud, plus on a du mal à vivre et plus il fait humide, ce que nous disait Françoise, plus les conditions sont insupportables et que le vivant intégré à la ville permet notamment de rafraîchir, de limiter le fameux effet d'ICU pour ceux qui aiment les acronymes, l'îlot de chaleur urbain. Vous nous dites aussi qu'on peut agir même en ville par des actes. Manger est un acte agricole, disait un penseur italien. Est-ce qu'il y a d'autres intérêts à intégrer le vivant à la ville et je voudrais que vous nous parliez de la relation sensible qu'on entretient avec le vivant pour ne pas dire de ce qu'on appelle, et certains de vos confrères, les expériences de nature.
Tout à fait. Il y avait un très beau papier dans la revue The Lancet. Hein. The Lancet, ce n'est pas une revue écolo, hein, quand même, je crois. Hein. C'est une des plus grandes revues médicales qui avait travaillé sur les Anglais, il y a quelques années, où il montrait que, quand vous avez au sein d'une grande ville des parcs, les gens qui avaient accès à ce parc vivaient leurs 30 dernières années de vie de façon très différente. Il y avait des influences très fortes sur certains types de maladies qui intervenaient. C'est le bien-être. Et surtout, c'est intéressant pour les gens pauvres et malheureux qui ne pouvaient pas partir en vacances. Ça gommait les effets des inégalités sociales. Alors, pour un homme politique, ça, je crois que c'est une information intéressante. Hein. On a besoin de ce vivant autour de nous. Et tout est à l'avenant. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de la ville? Par exemple, un truc tout bête, et vous qui êtes en plein dans le BTP, bah, la couleur, arrêtez de faire des choses qui sont noires ou marron ou foncées. Le blanc marche merveilleusement. Hein. Vous repeignez un bitume en couleur claire, vous faites des trous dans les parkings de supermarchés. Hein. Tout à l'heure, mon ami va en parler aussi. Montpellier qui a le triste record en France de surface de parking de supermarché ramené au nombre d'habitants, dès qu'il pleut un petit peu, c'est 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, voilà. Parce qu'il y a le changement climatique, mais il y a aussi, l'humain s'est offert effectivement à ces risques qu'on évoque ici. Hein. Donc l'eau, vous vous rappelez l'eau d'il y a 3 ou 4 ans, 35 morts. Changement climatique, non, on avait un épisode Cévenol un peu fort, mais c'était qu'on avait tout artificialisé. Donc voilà. Comment est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on fait partir à peu près un département français en surface tous les 7 ans. Donc comment est-ce qu'on réagit à cela? Construire en hauteur, ça je pense que pour des gens dans le bâtiment, c'est super important. Moi, je vois tous les bâtiments, par exemple, industriels qui sont sur les zones à la périphérie des villes, 1, 2 étages, pas plus, ben, il faudrait bien changer. Hein, par rapport au foncier, comment est-ce qu'au niveau des sols, aujourd'hui, on permet à l'eau de s'écouler? C'est fondamental. Donc on revient à des questions très simples, hein. Eau, température. Et un bébé humain qui naît, c'est 3/4 d'eau. C'est pas fait pour laver sa voiture. Et quand je vois qu'aujourd'hui, les gens utilisent cette eau de façon, et la gaspillent de façon éhontée, je suis allé à un colloque au Japon il y a quelques années, l'eau, la molécule oubliée. Cette eau, elle est absolument... Tous les êtres vivants sont faits d'eau liquide, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et tout à l'heure, j'avais une jeune femme qui était avec moi, qui était enceinte, je lui disais, en fait, le vrai moment du bébé humain qui entre en contact avec la biodiversité de la Terre, c'est la rupture de la poche des os. À ce moment précis, le bébé entre en contact avec les micro-organismes de la Terre. Et ce premier contact est fondamental pour sa vie future. Donc c'est là qu'il faut regarder ce qui se passe de façon très claire. comment on admet ceci, on le reconnaît, on... éducation, même à l'école polytechnique ou à l'école nationale d'administration, ils ont oublié, Alix moi, mais à l'ENA, ils ont oublié qu'ils ont fait de bactéries et d'eau liquide. Hein. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un sujet qui est fondamental, éduquer, reconnaître ce qu'on est, beaucoup plus d'humilité, on a dit tout à l'heure, hein, ça c'est très important, et puis à respect d'autres, on a oublié l'amour finalement. Et je terminerai sur la grotte Chauvet, où j'ai eu la chance d'aller deux fois dans l'original. J'en pleure à chaque fois. Vous avez là des rhinocéros, vous avez des lions, vous avez des hyènes, des panthères. En France, hein, on est dans l'Ardèche, hein, à Vallon-Pont-d'Arc. Et ma vraie question, c'est... Bon, ils dessinaient merveilleusement. 37 000 ans, hein, c'est deux fois plus vieux que Lascaux. Hein. Pourquoi ils ont fait ça? Eh bien, c'est clair aujourd'hui qu'il y a des tas de choses que vous avez faites depuis ce matin, qui ne servent à rien, mais qui vous ont donné du plaisir. Et ça, on l'a oublié dans nos critères aujourd'hui du développement de demain.
La technique... L'amour, le plaisir, merci. Nous allons accueillir maintenant Bernard Mounier. J'ai juste une dernière question en forme de carte blanche. Réponse courte pour vous, Gilles. Pendant que M. Mounier s'installe, on estime, je dis on parce que les sources divergent, qu'un tiers des émissions de gaz à effet de serre incombe au secteur du BTP. La fragmentation des milieux, voire leur destruction dont vous parliez tout à l'heure, notamment par la fameuse artificialisation des sols, il faut bien articuler, sont des facteurs avérés d'érosion de la biodiversité. Souvenez-vous, l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité que nous citions tout à l'heure, avait remis un rapport en 2018 au président de la République Emmanuel Macron qui attestait de cette causalité. Alors pour notre public, ici présent, à distance, qui est composé d'acteurs de la construction, de l'immobilier, de la ville en général, quel message, au singulier ou au pluriel, aimeriez-vous passer en conclusion?
Ne jamais faire quoi que ce soit sans tenir compte de l'impact sur le vivant. Je crois que notre principal ennemi, c'est la démesure. Ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les avions, ce n'est pas l'immobilier. C'est la façon dont aujourd'hui, justement, on utilise ceci. Et je finirai sur une boutade de mon ami Edgar Morin, qui a eu 100 ans, qui disait la semaine dernière au président Macron, « Vous savez, monsieur le président, le vrai problème, ce n'est pas la frénésie technologique ou scientifique, c'est l'usage que l'on en fait. » Voilà.
Merci, merci beaucoup, Gilles. Nous pourrons poursuivre cet échange. Alors, Bernard Mounier, merci de nous avoir rejoints. Vous présidez Bouygues Immobilier depuis un petit peu plus de 6 mois, après avoir occupé différentes fonctions au sein de la branche construction du groupe Bouygues. Pour vous, quel est votre regard sur ces enjeux de climat, de biodiversité, et qu'est-ce qui vous amène dans votre cheminement à engager Bouygues Immobilier dans un nouveau chemin qui est déjà bien entamé, mais qu'est-ce qui vous motive, vous qui êtes à l'initiative de ce cycle d'émissions?
Alors, si vous me le permettez, Gilles, je vais rebondir sur la grotte Chauvet, parce que le maire de Vallon-Pont-d'Arc est mon oncle, et à l'époque de la découverte de la grotte Chauvet, voilà, j'ai bien vécu cet épisode. Et là, ça me permet de faire tout de suite quelque chose qui me frappe. Alors, je suis pas un spécialiste technique des chiffres, mais quand en tant que citoyen, je regarde les chiffres, je me dis, bon, vous avez parlé de l'apparition de la vie sur Terre, c'est, je crois... C'est
4 milliards d'années.
Voilà, l'apparition de l'homme sur la Terre...
Bon, disons, si on prend prenez votre micro, peut-être...
Si on prend Sapiens, 400 000 ans maintenant.
400 000 ans. Bon. Alors nous, en tant qu'entreprise, on va parler du début de l'ère industrielle. Le début de l'ère industrielle, c'est 1880, c'est le charbon, la machine à vapeur, le tissu, et donc c'est les premiers débuts de l'ère industrielle. 50 ans après, on passe à l'étape suivante, donc on attaque l'électricité, la chimie, le pétrole. On parle du charbon et du pétrole. Et la troisième qu'on est en train de vivre, finalement, c'est l'informatique, les transports, les télécoms, le nucléaire, je l'ai peut-être oublié, on ne sait pas quand est-ce que ça se termine, mais voilà, on est à peu près dans cette logique-là. Ça a 200 ans. En tant que citoyen, être humain sur la planète, ces 200 ans, c'est ce qui est en train de mettre la planète par terre. Il faut être clair. Donc c'est très très court à l'échelle de la vie de la planète. Bon, si je me projette et que je vous écoute, je me dis dans 200 ans, si on continue comme ça, on ne va pas se faire peur, hein, aujourd'hui, mais quelque part, ça va être assez dramatique. Et alors, moi, cet été, j'ai relu un livre qui est assez j'aime bien les livres. Hein. J'ai offert ce livre-là à Attenborough, aux collaborateurs. J'aime bien les livres. Et j'ai relu un livre de René Barjavel qui s'appelle La nuit des temps.
Ah, j'adore. J'adore.
Et La nuit des temps, je me dis, mais finalement, il était assez précurseur. Est-ce que l'homme, finalement, lui, l'homme, est-il de passage sur Terre? Parce que vous l'avez dit très justement. Bah, fondamentalement, la Terre va s'en remettre, il se repassera autre chose derrière. À l'échelle de la planète, il se passera autre chose. Bien. Et donc, en tant que citoyen, je me dis, bah, il faut qu'on informe les collaborateurs, il faut qu'on en parle. C'est le grand sursaut de l'être humain qui est en train de se dire, il y a 10 ans, 15 ans, on parlait de trous dans la couche d'ozone, et maintenant on parle de biodiversité, on parle de réchauffement climatique, on parle d'inexorabilité des événements, et on fait le lien entre tout ça. Bien. Ce prédateur que l'être humain est aujourd'hui, il est aussi intelligent. Bon, et donc il est en train de comprendre qu'il faut qu'il change peut-être ses comportements. Et donc, maintenant, en tant que patron d'entreprise, d'une entreprise qui crée la ville, qui fait l'endroit où on habite, je ne peux pas avoir un comportement différent du comportement du citoyen qui dit qu'il faut que quelque part j'agisse moi. Donc moi, je crois fondamentalement à l'action du citoyen. L'action du citoyen dans sa vie commune, dans sa vie de citoyen. Je crois à l'action de l'entreprise, mais bien sûr du politique, des scientifiques, pour faire que l'homme change. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit justement, il faut qu'il change dans sa façon de faire pour traiter le problème du climat, et il faut qu'il change plus vite que la capacité du règne animal est capable de s'adapter, parce que fondamentalement, il n'a pas le temps de s'adapter à la vitesse à laquelle on est en train de les détruire. Pareil des océans, moi je suis passionné des océans, le requin qui a des millions d'années d'existence, il ne peut pas résister à des milliers de chaluts qui l'attrapent pour lui couper les ailerons et le relâcher dans la mer. C'est pas possible. Les baleines ne peuvent pas s'adapter. Bon, on va faire une longue litanie. L'Amazonie ne peut pas s'adapter. Donc, il faut qu'on s'adapte. Alors, nous, collaborateurs de Bouygues Immobilier, une fois qu'on a dit ça, quel est notre rôle ? Notre rôle, comme c'est de construire la ville, il faut se poser la question, comment on peut la construire autrement ? Bien. Alors, je crois à l'acculturation. Connaître, savoir, parler, faire savoir. C'est le rôle de ce type d'émission. J'espère que ça éveille des consciences. J'espère que les collaborateurs se disent, finalement, j'ai envie de lire ce livre, j'ai envie de lire un autre livre, j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'être sachant à la matière. J'ai plus envie que on me fasse des fake news, on me dise que tout va bien et que finalement, je peux continuer à vivre comme ça, je peux continuer à consommer autant et que ça va bien se passer et que finalement, tout ça va se débrouiller. Il y a une vraie urgence et il faut faire quelque chose. Donc, un rôle d'acculturation. Et puis maintenant, en tant qu'entreprise, il y a un vrai rôle, puisque je construis la ville. Ce vrai rôle, c'est de la construire autrement. C'est notre engagement. La vie commence ici et on veut être un acteur différenciant sur ces deux thématiques qui sont le climat. Je rappelle, 99% de notre émission de gaz à effet de serre de carbone, nous, en tant que promoteurs-constructeurs, c'est notre activité. Alors, on le sait, c'est les bétons, c'est la manière de faire, c'est de consommer. Il y a des solutions. Donc, il faut les mettre en exergue. Il faut les mettre en exergue, c'est-à-dire les proposer, les faire connaître et puis, quelque part, les forcer. Le promoteur, finalement, c'est lui qui décide ce qu'il va faire. Si demain matin, les promoteurs disent finalement je n'utilise plus de béton parce que j'ai une action citoyenne, je construirai en bois ce que je peux construire en bois et la technique évoluera, elle se transformera et elle permettra de faire autre chose. Donc il faut qu'on soit sachant des technologies, il faut qu'on puisse les proposer. Et alors, c'est en cela qu'on veut être les interlocuteurs des collectivités. On veut pouvoir proposer à ceux qui proposent des terrains, à ceux qui proposent des fonciers pour faire des modes opératoires différents pour préserver le climat et lutter contre ces problématiques de climat. Donc faire autrement. C'est notre rôle. Il va falloir apprendre. Il va falloir faire évoluer ces façons d'être. Il va falloir se dire que finalement, ce n'est pas toujours plus cher. Mais parce que c'est ce mot toujours plus cher. Non, l'urgence climatique fait qu'il faut dépasser cette barrière de toujours plus cher. Et le deuxième aspect, c'est la problématique de la biodiversité. On construit forcément aujourd'hui beaucoup sur des terres neuves. Donc, il faut changer le paradigme. C'est-à-dire qu'il faut reconstruire la ville sur la ville. Donc, il faut aller vers faire autrement la construction de la ville sur la ville. Alors évidemment, la construction de la ville sur la ville, notamment en France, c'est un problème. On parle de densité. Alors, dès qu'on parle de densité, on se fait peur. Dès qu'on parle de hauteur, on se fait peur. Vous disiez tout à l'heure, vous êtes des constructeurs, vous savez construire en hauteur. Oui, bien sûr, mais on a un refus des collectivités. Donc il faut faire comprendre que l'on peut faire autrement et différent. Une tour, un bâtiment en hauteur, ce n'est pas un bloc de béton. Ça peut se faire autrement. Ça peut se faire avec des jardins, ça peut se faire avec des espaces verts, ça peut se faire avec de l'eau, ça peut se faire avec de la végétation. Donc tout ça, c'est à bien appréhender, c'est à proposer. Il faut que le collaborateur intègre ça et puisse proposer cela. Ensuite, il faut lutter contre cette artificialisation. Donc pour lutter contre l'artificialisation, moi je crois qu'il y a bien sûr, il n'y a qu'un faucon. Et puis il y a aussi, comme on fait pour le carbone, des capacités à calculer notre impact. On commence à être capable de calculer notre impact carbone. Eh bien, on va commencer à être capable de calculer notre impact sur la biodiversité. Olivier en parlera tout à l'heure, on est en train de mettre en place des dispositifs de calculette. Alors c'est très... On débute, on mesure qu'est-ce qui se passe sur un terrain, on fait des calculs, qu'est-ce que je rajoute. Mais voilà, c'est des éléments clés qu'on va pouvoir donner à ceux qui décident. Voilà, je préfère faire comme ci ou comme ça, parce que quand je choisis cette solution-là, je préserve la biodiversité et je vais aller vers des biodiversités positives. Et croyez-moi, il y a encore des solutions. Donc une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a acculturé les collaborateurs, on s'est rendu sachant, qu'on s'est rendu curieux, qu'on est capable d'être les interlocuteurs de la collectivité, ben, je crois qu'il y a un formidable élan qui s'avance. Alors, finalement, c'est je ne fais pas ce que je savais faire. Voilà. Je ne sais pas, je ne fais pas ce que je savais faire. Mais ce n'est pas grave. Je vais faire autrement. Voilà. Et donc là, c'est, voilà, je crois que c'est une grande opportunité pour le monde de la promotion, pour le monde de la construction, de changer les paradigmes. Et moi, je souhaite que Bouygues Immobilier s'inscrive dans cette thématique. Et c'est pour ça qu'avec mon comité exécutif, nous avons choisi cette signature. La vie commence ici.
Merci. Il y a 10 ans, vous ne nous auriez pas invité avec Françoise. Le monde change.
Absolument.
Le monde change, la vie commence ici. Alors, je retiens une chose. Lisez. Donc, Une vie sur notre planète de David Attenborough. Relisez René Barjavel, La nuit des temps. Je vais ajouter un ouvrage à la liste. C'est Les faiseurs de pluie de Tim Flannery, qui est un biologiste australien qui parle du climat et des relations entre le vivant et le climat. Ça date de 2007, ça n'a pas pris une ride. Et puis, vous aurez, si vous le souhaitez, des références complémentaires, notamment des articles de Gilles et de Françoise. Lire, mais aussi vivre et voir ici et là-bas des solutions concrètes. Comment faire ? C'est ce à quoi nous vous invitons dans la deuxième séquence. Merci infiniment Françoise Vimeux, climatologue, Gilles Boeuf, biologiste, et Bernard Mounier, président de Bouygues Immobilier. Restez avec nous. Générique.
Biodiversité et climat, même urgence, même combat. Un cycle d'émissions organisé par Bouygues Immobilier sur Radio Immo et Radio Territoria.